Le bar à... Le bar à quoi ?
Le bar à chatte.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Cha-cha-cha.
Qu'est-ce qu'on dit ?
Le bar à chat. L'émission chat, heureuse
de Radio Saint-Afrique.
Donc salut à tous, on est donc au bar à chat à Radio Saint-Afrique. Donc sans vouloir rentrer dans les banalités, nous sommes en août, c'est sans grande surprise, il fait beau, il fait chaud, on suinte, heureusement. On a la radio, donc on voit pas nos tronches et on peut faire illusion. Et ça c'est plutôt super. Donc aujourd'hui on est avec Chamonta,
miaou,
avec Chaussette,
miaou,
et Mémeille,
coucou, coucou, coucou.
Félix Potin à la technique et pour vous servir MC Stit qui fera l'animation.
Yeah.
Donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler concrètement? Chaussette, par exemple, tu veux commencer?
Je vais vous parler, en tout cas je vais déconstruire quelques petits mythes et quelques idées reçues. J'avais envie de lancer une petite rubrique un peu là-dessus, voilà, sur ce sujet-là. Vous verrez, j'expliquerai un peu plus. Je reste mystérieuse.
C'est bien, entretien mystère, c'est important, c'est comme illusion, c'est important.
C'est ça.
Et du coup, Mémaï, tu vas nous parler de...
Alors, une question que vous vous posez toutes et tous, c'est quoi l'amour ?
Ah,
vaste sujet.
Et oui.
Et je prétends y répondre.
Bon, on sera moins con à la fin de l'émission.
On espère en tout cas.
C'est plutôt pas mal.
Ou plus, ça dépend.
Et Chaussette, tu vas nous parler de...
Chamonta.
Pardon.
Pas de souci. Chamonta, je vais parler des transclasses. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, écoutez l'émission pour le découvrir. Petit trailer.
Alors, bon, moi... Je vais faire comme la semaine dernière, hein, je vais vous parler encore une fois d'un coup de gueule, hein, parce que c'est un peu mon truc. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, comme précisé au dernier épisode, hein, c'est un peu une chronique, j'ai perdu mon permis. Et en plus, maintenant, mon scooter est en rade.
Oh non !
Oui, ce qui a valu des épisodes assez pénibles. Et donc, n'ayant pas pu le faire réparer, j'ai dû rentrer en stop hier. Donc, je me fais emmener par un mec qui me dit bosser dans un cirque, pas loin... Ok, très bien, ça passe. Et donc, ma joie d'entendre au bout de quelques kilomètres « Ah, mais tu sais, le carburant, c'est cher, il y a peut-être moyen de s'arranger. »
Non.
Si. Alors à toi, espèce d'énorme gonade ambulante sur fond rouge étoilé, sache que ton outrecuidance apparemment ne t'empêche pas de respirer et je ne répondrai surtout pas à ton piteux « Bon bah bonne journée, hein !» quand j'ai dit non. Et malgré mon amour pour le monde du spectacle, je te souhaite une bonne chute de chapiteau sur la face. Voilà. Alors on va pouvoir commencer l'émission. En toute sérénité.
Te voilà soulagée.
Oui, c'est à moi. On est un peu perdu avec Félix Potin, la technique et tout. C'est pas trop.
Ah ben oui, on n'a pas dit que c'était Félix.
Non, c'était pas à moi.
Non, c'est à moi.
C'est à Chamonta. Non mais comme l'a dit MC Stit, il fait chaud, on est en août, on sue, on a les cerveaux un peu ramollis, donc c'est pas grave.
Ça va, les vacances, vous allez pas nous embêter, c'est bon, c'est tranquille.
Ça que c'est artisanal aussi.
Ouais,
c'est
absolument.
Ça fait plus vrai.
Exactement.
Du coup, j'y vais, c'est parti.
Vas-y. Allez,
j'y vais. Alors, il faut que je vous dise un truc, je suis une transclasse. Ça veut dire que je fais partie de cette minorité d'individus qui a changé de classe sociale au cours de sa vie. Fille d'un immigré portugais chauffeur de poids lourd et d'une employée de la sécurité sociale, j'ai eu le grand privilège de faire des études supérieures. Je suis même allée le plus loin possible jusqu'au doctorat. Au fur et à mesure que je m'élevais dans le degré de diplôme, mon entourage évoluait. Déjà, peu de mes amis de primaire et de collège, qui venaient d'un même milieu social que moi, se sont retrouvés dans la même filière au lycée. Bon, j'avais pris S, la voie la plus élitiste. Plus tard, à la fac de biologie, plusieurs de mes amis étaient comme moi. Nous avions une bourse sur critères sociaux, ce qui nous permettait de financer une partie de la vie universitaire. Pas assez, malheureusement. Nous avons dû bosser à côté. Tandis que les petits bourgeois passaient leur été à faire des stages payants, s'il vous plaît, pour agrémenter leur CV, mes amis et moi, on travaillait pour payer nos tickets de rue, le restaurant universitaire. La première année, mon amie Laetitia a redoublé. Il faut dire qu'elle travaillait aussi le soir pendant les semaines de cours. Moi, je ne travaillais que pendant les vacances et je suis passée. La deuxième année, c'est mon amie Cyrielle qui a redoublé. Y a-t-il un lien avec le fait qu'elle bossait le soir à McDo cette année-là? Je ne sais pas. Moi, je suis passée. La troisième année, c'est Isa qui a redoublé. Moi, je suis passée. Lorsque je me suis retrouvée en master, nous n'étions plus que deux dans la promo de 50 étudiants à être titulaire d'une bourse sur critères sociaux. Je suis la seule à avoir poursuivi par un doctorat.
Pourquoi nous déteste-t-elle autant?
Marielle essayait de comprendre. Elle vivait dans une famille tranquille, équilibrée, sans problème, où nous faisions tout pour son bonheur. Et tout à coup, elle apprend qu'elle vient de ce milieu sordide, toute cette bêtise, cette crasse, cette mère répugnante, les frères et les sœurs tous plus débiles les uns que les autres. C'est un cauchemar, ce moulin de la Vierge! Nous devons l'entourer de toute notre tendresse et notre amour. Soyons patients.
Le déplacement d'une classe sociale à une autre produit différents effets, notamment la honte sociale et la culpabilité. Je sais ça parce que je l'ai lu dans le livre d'une philosophe, Chantal Jacquet, qui s'appelle « Les transclasses » ou « La non-reproduction ». J'ai lu ce livre parce que je fais désormais partie d'une certaine élite intellectuelle qui a pour habitude d'analyser les choses. C'est même un habitus, comme dirait Bourdieu. T'as vu maman, j'ai des références maintenant. Je cite des sociologues dans mes phrases. Et en plus, je sais ce que c'est un sociologue. Putain, ce que j'ai changé. Elle dit, Chantal Jacquet, que ce qui différencie le transclasse de ses congénères, c'est l'épreuve du passage d'un monde à l'autre que peu d'êtres humains connaissent en raison de l'immobilisme des sociétés. Je suis une hybride. Ni tout à fait prolo, ni tout à fait bourgeoise. Et je peux te dire, maman, que je suis bien déçue par comment c'est là-haut. Au début, je me sentais honorée. Moi, la petite, accueillie dans le monde des grands, bonjour la fierté. Et puis j'ai rencontré quelques médiocres. Et puis de plus en plus de médiocres. Je me suis demandé comment ça se faisait que tous ces gens qui étaient nés, le cul dans le pognon, ne soient pas plus malins. S'ils dirigent le monde, s'ils ont tant alors que tellement d'autres n'ont rien, c'est qu'ils doivent le mériter, non?
Allez, Momo, fais-nous le perloquet noir.
Maintenant, tu peux boire, Emmanuel. Si tu bois froid, juste un poids ton potage chaud, tu vas faire sauter les mailles de tes dents.
Oh, la guignole.
Je ne suis pas des leurs, mais je ne suis pas des vôtres non plus. Hélas, je navigue d'un monde à l'autre, éternel matelot entre deux continents. Et j'emmène dans ma soute mes compagnons de voyage, la honte, la culpabilité et un sentiment profond d'illégitimité. La honte, c'est le malaise que je ressens quand je me regarde comme j'imagine que les bourgeois me regardent. Une honte à l'idée que l'on juge mon milieu d'origine comme inférieur. Une honte qu'on me juge moi, à travers ce milieu auquel je n'appartiens plus, mais auquel je reste assimilée. La honte que nous avons tous par chez nous, chez les dominés, car ils intériorisent l'idée qu'ils sont des êtres inférieurs ou peu doués.
Et je lui dis, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre.
Ma culpabilité, elle vient du sentiment d'injustice devant les inégalités. Pourquoi moi, j'en suis sortie? Mais surtout, pourquoi vous, vous êtes restés? Comment vivre en paix avec ma conscience et ne pas avoir l'impression d'être une traîtresse, une nantie, un monstre d'égoïsme qui abandonne les autres à leur sort? Dis maman, est-ce que je vous ai trahi?
Repenti.
J'ai essayé, tu sais, de ne plus ressentir cette culpabilité dans mes tripes. J'ai fait du développement personnel. J'ai fait de la méditation. J'ai essayé de m'en foutre. Rien à faire, je ne m'en fous pas, ça ne me quitte pas. Comme tant d'autres transclasses, je devrais sans doute vivre avec toute ma vie. J'essaie de transformer ça en puissance d'agir. J'essaie de changer le monde pour le rendre moins inégalitaire. Mais parfois, maman, je suis fatiguée. Et alors je suis en colère, parce que ceux qui n'ont pas fait ce chemin, mais qui ont toujours été en haut de l'échelle sociale, ils ne comprennent pas. Ils continuent de reproduire la machine qui écrase ceux d'en bas. Et ça, c'est vraiment pas classe.
Hey mec.
mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin ni un euro marché. Haute Neuilly, Passy, tel est notre ghetto.
Mais mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry Patrick Stanislas, duc de Montmorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit.
As-tu saisi, mon pote, notre envie de révolte?
J'ai envie de crier zut en flûte, crante en...
Chier!
Haute Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Haute Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Salut, tu vas bien? Salut, tu vas bien? Y'en a marre du fauchon,
du hédiard,
du saumon,
du caviar.
Salut, c'est Patrick à l'appareil. Ouais, c'est Pat, tu vas bien? Et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie. À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie. À faire le baisement à des pétasses mal baisées. Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées.
Je veux être un voyou, vrai de vrai en Indois.
Mais quand t'es né ici, vous n'avez pas le choix.
Y'en a marre des Millet,
Ségolène,
Sylvine,
Gwendoline,
Églantine,
Marie-Chantal.
Y'en a marre, mon frère, on a de gros problèmes.
Y'en a marre, mon frère, de subir le système.
Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA, OHEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa.
Salut, tu vas bien?
Haute Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Haute Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Hey mec, nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché.
Oui, mec.
Et pour sortir de ce carcan économique capitaliste, il faut savoir dire non, 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 mec.
Salut, tu vas bien?
Haute Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Haute Neuilly Passy, tel est notre ghetto. Haute Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Haute Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Salut, on tue, on va bien en l'ombre.
Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir.
Ok, donc merci Chaussette pour cette explication. Je connaissais pas du tout le terme de transclasse, quoi, donc du coup c'était assez intéressant. Et toi, tu t'es retrouvée un peu entre les groseilles et les lequenois?
Et ouais, c'est ça. Alors c'est toujours Chamanta.
Je me suis trompée sur ma feuille en fait et j'ai pas corrigé.
C'est pas grave, au début moi j'appelais tout le monde par son prénom.
Après, c'est hyper caricatural. Là, j'ai mis des extraits pour rigoler de La vie est un long fleuve tranquille, vous aurez reconnu. Ouais. Mais je viens pas des groseilles et j'ai pas atterri chez les lequenois.
C'était un peu la caricature entre les deux.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu tempête dans ton cerveau, là, alors ça, le fait de.
Ah, moi, ça, ouais. Ça a une résonance dans ce que tu as dit, là, par rapport à mon vécu. Sauf que moi, mon problème, mon truc, c'est que je suis une immigrée colonisée. Et voilà. Ouais, années 60, Algérie, je me suis retrouvée dans mon boulot avec des gens de la haute et je n'avais pas la culture. Mmh. Bah, par exemple, ces gens-là, il y en avait une qui est entrée à cheval au Sénat. Voilà. Ouais, bon. Alors, c'est que ça m'a beaucoup remué de pas avoir les clés et les modes de fonctionnement et les modes de réaction de ces gens-là, quoi. Et pour ça, ce que tu disais, ça me... Bon, c'est pas la même chose, hein, mais quand même...
Mais il y a ça aussi. En fait, il y a toujours un décalage permanent, du coup, de un temps de recul où on est en observation de comment ils font, c'est quoi les codes, c'est quoi les comportements à adopter.
Exactement,
puis ouais. Tu fais, puis t'essayes, tu dis, ah non, mais là, en fait, t'arrives pas à donner le change, parce qu'en fait, de base, il y a une inégalité qu'en fait, tu peux pas vraiment combler, parce que ça se sent, quoi, qu'il y a une différence.
Ah ouais, c'est très inconfortable, ouais. De pas savoir... comment se comporter pour être en tout cas à la hauteur extérieurement, on s'en fout après le reste. Hein.
Et c'est parce qu'il y a un jugement de valeur aussi entre les deux et que c'est Il y a vraiment, il y en a un qui est privilégié, quoi. Il y en a un qui est vu comme bien, et puis les autres qui sont vus comme...
Bon, enfin, ça soigne, hein.
Et puis, ça peut générer des jugements au sein de ta propre famille, aussi. Moi, c'est le cas. Enfin, ma famille, du côté de ma mère, est plutôt prolo, on va dire, mais enfin, sans jugement de valeur, quoi.
Ouais.
Mais, et du coup, bah, le fait que moi, je sois l'aînée de la famille et de faire des études supérieures, c'est pareil, c'est... Tu le sens, quand il y a des conflits, c'est quelque chose qui va ressortir. Oui, toi, ta fille, on sait que c'est la mieux, elle a fait des études. Ils se sentent très infériorisés, alors que moi, c'est pas quelque chose que je vais revendiquer ou quoi. Mais du coup, même dans sa propre famille, c'est dur des fois de... En disant, ben non, enfin, j'ai fait des études, j'ai fait ce qui me plaisait, et je suis pas du tout là pour vous rabaisser. Et, enfin...
Mais elle parle de ça dans le bouquin aussi, Chantal Jacquet, de comment, quand tu reviens dans ton milieu d'origine, eh ben, t'es un peu attendu au tournant. On regarde, est-ce que t'as changé? Est-ce que t'es
bien
passé
sûr.
De l'autre côté? Est-ce que... Parce qu'il y a une espèce d'ambivalence où les parents ont envie que tu sortes de cette classe sociale, que t'ailles, que tu réussisses. Mais du coup, en réussissant, tu deviens un peu l'ennemi aussi. Parce que tu rejoins les classes dominantes qui oppressent celles du bas. Et du coup, t'es tiraillé entre les deux, là. C'est difficile. Psychologiquement, quoi, ça crée... Mais c'est un autre bouquin, je sors ma science, là, du coup, qui s'appelle « La névrose de classe » de Vincent de Goléjac, que j'ai lu aussi, là, qui, lui, est un sociologue. Et c'est super intéressant. Il raconte bien ça, tout ce qui se joue psychologiquement.
Mais du coup, c'est... Ça, c'est chouette, ce sujet. Je demande une espèce de... certaine idée de la réussite, parce que j'ai un petit montage, après, là, qui s'inspire, comment dire... de personnes, voilà, qui ont une idée de la réussite sociale. Donc, c'est le live de... de Manu et Marine.
Interpellé par des syndicalistes, Emmanuel Macron se défend.
Mais moi, j'ai pas le droit de recevoir. Si vous aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer.
Voilà.
Et quant aux remarques sur son costume...
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
Et toi, quels sont tes objectifs?
Mon but est de ne pas me réveiller à 40 ans pour m'apercevoir avec amertume que j'ai gâché ma vie dans un boulot que je déteste parce que j'ai été forcée de choisir une carrière quand j'étais jeune et innocente.
La culture, notre culture... C'est ce qui nous tient, c'est ce qui permet à chacune et chacun de sortir de sa condition et d'accéder à un commun. Parce que oui, ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre. Nous sommes bien nés sous la même étoile.
Préparation H soulage la douleur, favorise la cicatrisation. Préparation H est un médicament.
Un danger très lourd, des règles de sécurité condamner le peuple, très négatif pour le peuple, des délinquants, des criminels, le fondamentalisme islamiste, les voyous de banlieue quand ils pillent, quand ils brûlent, quand ils saccagent, quand ils agressent.
Franchement, regardez-la, vous trouvez qu'elle a une tête à avoir une conscience politique ?
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire. J'aime la France. J'aime du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, cette nation millénaire qui ne se soumet pas, ce peuple impétueux qui ne renonce pas.
Vos gueules, les mouettes, la mer est basse.
Moi j'en ai plein de cul super ce putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans des trois rats comme des merdes et quoi? Qu'est-ce que tu fais quelque chose toi pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul toi non plus. Alors moi je vais vous dire un truc parce que vous êtes mes amis, ok? Tu sais quoi? Moi si Abdel il passe, je vais rétablir la balance et je te shoote un keuf. Comme ça il va bien comprendre une bonne fois pour toutes que c'est fini, on t'en plus l'autre jour.
Gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Formidable, j'ai atteint mon objectif.
Alors Alors du coup, moi, je sais pas trop si on se situe du côté des gens qui réussissent ou de ceux qui sont rien. Alors ça rejoint un peu ton truc. Je sais pas où me mettre.
C'est navrant, là.
C'est plutôt pénible. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup rigolé à faire ce montage et surtout à regarder plein de pubs, en fait, des années 80, 90, avec la préparation H. Oui. J'ai trouvé ça très rigolo. J'étais contente de caler ça à la radio. C'est bon, ma mission est accomplie. Voilà.
Ben merci beaucoup pour cette œuvre de salut public.
Du coup, tu voulais nous parler, Chaussette, des idées reçues.
Oui, ça y est, ben je démarre sur mon thème. Alors du coup, en écoutant le montage que tu as passé avant, je me pose la question de savoir si je suis pas un peu Macron compatible, du coup. Parce que, comme je vais vous parler de culture et de science, tu vois.
Allez. C'est dommage.
Ça me plaît pas trop. Oui, merci. Donc, alors, eh bien voilà. Comme l'a dit MC Stitt tout à l'heure, c'est le plein été et je pensais vous causer de sujets hyper légers du genre trouver le bikini adapté à votre morphologie en parallèle d'un épater vos amis en revisitant le Queen Amman version light, donc big up aux peines sardines qui nous écoutent. Mais j'ai réalisé que si vous avez un corps et si vous avez un bikini, a priori c'est bon, vous pouvez aller jouer la sirène sur la plage, le reste on s'en tape. Et de deux, que le Queen Amman light c'est comme le prince charmant, ça n'existe pas et que vive le beurre salé quoi. Donc face à ces constatations, j'ai laissé tomber les sujets légers et j'ai décidé de propager un peu de culture et de science dans cette émission. Non pas qu'il n'y en ait pas eu avant, hein. Je veux pas vous vexer les filles. Non d'une mitochondrie, afin que nos chères auditrices et auditeurs ne pensent pas que nous avons seulement des physiques. Non, au bar à chat, nous avons aussi des cerveaux. Et donc, comme c'est l'été quand même, hein, je me suis dit qu'on allait commencer tranquillou pour pas vous faire fuir non plus avec le démontage de quelques mythes et idées reçues. Je vous ai concocté une petite sélection que vous pourrez ressortir à loisir lors de vos soirées mondaines ou prolétaires afin de capter et d'éblouir votre auditoire. Allez, je me lance. Alors désolé si certains d'entre vous le savent déjà, mais en premier lieu, je me devais, en naturaliste que je suis, de rétablir une vérité ornithologique. Les pingouins volent.
C'est pas
voilà,
vrai.
C'est dit. Oui, les pingouins volent. Vous pouvez notamment les admirer sur les côtes françaises, même en Méditerranée parfois. Enfin, le petit pingouin vole, appelé aussi pingouin torda. Il est malheureusement le seul rescapé du genre pingouin, puisque le grand pingouin, lui, ne volait pas et a été exterminé par les hommes au 19e siècle. Mais bon. Donc, ce sont les manchots qui ne volent pas. Eux ne squattent que l'hémisphère sud, des terres australes aux côtes africaines, australiennes et d'Amérique latine, ou plutôt du sud, et ils sont nombreux, plus ou moins 18 espèces au total. Donc ceux qui se dandinent à la queue leu-leu sur la banquise, squattent les plages d'Afrique du Sud avec leurs petits complets noirs et blancs, leurs houppettes, avec leurs moignons d'ailes qui jouent à saut de mouton avec les otaries et les orques et j'en passe, et bien ça, ce sont bien des manchots. Comme Pingu, le papa pingouin, les pingouins du film d'animation Madagascar, tout ça, tout ça. Mais alors pourquoi la grande majorité des gens continuent à croire cela? Car en anglais, manchot se dit penguin. Enfin, et en fait, dans beaucoup d'autres langues aussi, je m'en suis rendu compte, en allemand, en espagnol, en italien, en russe, etc. Donc voilà, c'est pas plus con que ça, une mauvaise traduction et tout fout le camp. Ça, c'était la première idée qui me tenait vraiment à cœur. Du coup, je me permets de faire un petit aparté, toujours en tant que naturaliste extrémiste, tant que nous sommes dans les becs et dans les plumes, mais là, bon, je déconstruis pas vraiment une idée reçue, juste pour vous dire que non, les mouettes et les goélands, ce n'est pas la même chose, bordel. Bon, j'avoue, hein, je suis un peu rigide sur ces questions-là. Bon, je vous concède, c'est la même famille, et en plus, en anglais, encore, bah, c'est le même mot. Mais si vous êtes un poil observateur et que vous n'avez pas une chure dans l'œil, vous pouvez vous aussi savoir c'est quoi comme piaf la prochaine fois. Le goéland est plus gros que la mouette a un bec rouge plutôt fin, le goéland un gros bec jaune. La mouette est plus fine, plus gracile également, et leurs cris sont différents. Alors, j'imite très bien la poule, mais pour ces deux-là, je suis naze. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le site oiseau.net, c'est top pour tous les chants d'oiseaux. Alors, c'est surtout le goéland, lui, qui vous pique votre glace sur la plage et qui chie sur vos pare-brises en bord de mer. Mais les deux peuvent se rencontrer loin des côtes. Enfin, en général, ceux que vous voyez occasionnellement traîner au-dessus de la sorgue ou du dourdou, ce sont des goélands. Passé ces considérations aviaires, continuons d'enfoncer des portes ouvertes avec les démentis suivants. Non, on ne peut pas voir la Grande Muraille de Chine depuis la Lune. Depuis l'espace, à plus ou moins 15 km d'altitude et avec un œil très aiguisé, ok, mais pas depuis la Lune, désolé. À cette altitude, on aperçoit également sans problème la plus grande structure vivante du globe, la Grande Barrière de Corail.
Feu.
Non, presque feu, effectivement. Non, le poisson rouge n'a pas une mémoire de 3 secondes, mais plutôt d'au moins 3 mois. La raison de cette idée reçue pourrait tenir au fait qu'il tourne en rond dans son bocal. Sans blague, que faire d'autre? De plus, je me dis que cette idée pourrait supprimer le sentiment de culpabilité qu'on peut éprouver en mettant un pauvre petit poisson rouge dans un tout petit aquarium. Hein ? Pensez-y la prochaine fois que vos mômes vous réclament un poisson. Vous vous imaginez vivre dans une pièce de 2 mètres carrés au milieu de vos excréments et quasiment sans oxygène. Emmenez plutôt vos enfants au bord de la rivière en soirée et dites-leur d'observer le silence. Là, ils en verront des poissons. En restant dans le domaine animalier, les lemmings. Vous savez, ces petits rongeurs tout mignons ne sont pas suicidaires. Comme ce sont des rongeurs, donc des animaux à stratégie R, c'est-à-dire on vit pas longtemps avec une mortalité élevée, donc on se reproduit, on se reproduit, on se reproduit. Bon, je schématise rapidement. Eh bien, la surpopulation et le manque de ressources obligent alors ces mignonnes petites bêtes à parfois migrer vers des régions moins peuplées, parfois en grands groupes, mais pas à se jeter du haut d'une falaise en désespoir de cause. Un documentaire pourrait notamment être mis en cause dans cette histoire. Le désert de l'Arctique, produit en 1958 par Walt Disney Productions. On y voit une horde de lemmings déferler du haut d'une falaise pour se jeter dans l'océan, où ils nagent jusqu'à la mort. Selon le narrateur, il ne s'agit pas à proprement de suicide volontaire, mais d'une erreur des lemmings. Ils confondraient l'océan avec un lac et ils nageraient dans l'espoir d'en atteindre l'autre côté. Mais une enquête révèle que le tournage de cette scène avait été truqué. L'équipe de tournage ayant notamment poussé les lemmings dans la rivière afin de pouvoir filmer les images spectaculaires où on les voit soi-disant sauter et nager jusqu'à leur mort. Il semble donc que les réalisateurs du documentaire soient donnés beaucoup de mal pour forcer les lemmings à se comporter d'une manière contraire à leur instinct. On n'a en réalité jamais observé de groupe de lemmings se suicidant en masse en sautant dans l'océan. Merci Disney en tout cas. Après les rongeurs, autre idée que j'entends régulièrement ressortir dans les conversations. Chers humains, désolé que cette fausse idée vous ait fait croire que nous étions tous des génies qui s'ignoraient, mais non, mille fois non, nous n'utilisons pas que 10% de notre cerveau. Tout le monde utilise la totalité de son cerveau. En fait, au vu de l'énergie disponible, notre cerveau ne peut activer qu'entre 1 et 16% des neurones à un moment donné et dans une région donnée. Ceci expliquerait pourquoi il nous est en vérité difficile d'être réellement multitâche et pourquoi notre cerveau opérerait de nombreuses opérations inconsciemment. Là, par exemple, en vous parlant, je pense déjà à ce que je vais dire.
C'est triste dans certains cas. Hein.
Loin d'être utilisé à 10%, notre organe serait donc plutôt très occupé. Bon, et enfin, une petite idée reçue qui me tient à cœur, parce que j'ai eu l'occasion dernièrement d'en discuter avec plusieurs personnes qui étaient persuadées de la chose. Le logo vert affiché sur les emballages ne signifie pas que cet emballage est recyclé, mais qu'il est recyclable. Il y a une nuance tout de même. Cela signifie également que l'entreprise participe financièrement à la collecte des emballages. Ça, c'est dit parce que souvent, je vois des gens se dire « Oh, c'est super, je peux le prendre, ça va être recyclé. » Voilà. C'est important. Pour moi. Donc voilà, ce sera tout pour cette première séquence. J'ai essayé de faire soft, mais après, si vous aimez ça, on pourra éventuellement rentrer dans le dur dans d'autres émissions avec des sujets plus ardos, un peu plus fournis. Donc, merci de m'avoir écouté. Ah, ça joue. Et du coup, pour respirer un peu de toutes ces infos que je vous ai balancées vitesse grand V, on se détend un peu avec Elmer Footbeat.
Toujours de la place pour les copains qui passent.
Donc merci pour cette petite chronique naturaliste. Alors moi j'avoue que j'ai une culture ornitho assez naze, donc j'étais assez contente d'apprendre plein de choses. Et c'est dommage, à la radio on ne nous voit pas crever de chaud, mais on ne voit pas non plus imiter le lemming. Je trouve ça assez ballot pour les auditeurs, quoi. Bon, du coup on va passer sur un sujet assez différent, mais assez estival aussi. On va parler d'amour, bon bah... Pourquoi pas,
temporel.
Hein. On s'instruit dans cette émission.
Oui, c'est intéressant.
Voilà, alors je vais vous parler. C'est quoi l'amour ?
Bon,
c'est une question que vous n'aurez pas de mal à juger essentielle. Hein. Qu'est-ce que l'amour ? Eh oui, et je prétends même y répondre. Bon, pas toute seule. Malgré une certaine expérience, puisque oserais-je vous le dire, j'ai passé 40 ans de ma vie à être amoureuse, et bien sûr, pas toujours du même. Fort heureusement, pour tout nous expliquer, il y a de nombreux scientifiques qui se sont penchés sur le phénomène. Aujourd'hui, je ferai appel aux socio-anthropologues. L'état amoureux, particulièrement durant sa phase initiale, peut être repéré par des symptômes caractéristiques. L'anthropologue Hélène Fischer a mené l'enquête auprès de jeunes Américains et de Japonais. Il en ressort, tenez-vous bien, un tableau clinique de l'amour. L'amour est-il une maladie ?
C'est romantique.
Ou se repère quelques constantes ?
Alors selon Michel Sardou, c'est une maladie.
Merci Michel, si tu nous écoutes.
Big up.
La focalisation de l'attention d'abord. Quand l'autre est là, plus rien ne compte. Cette attention exclusive s'accompagne d'une recherche de fusion. Un autre signe est l'exaltation, transport, débordement, extase, l'idéalisation. L'être aimé est paré de toutes les qualités, ses défauts gommés. Tout n'est pourtant pas merveilleux durant cette phase passionnelle. L'amour se traduit aussi par des symptômes de manque lorsque l'être cher est absent. La moindre contrariété peut aussi conduire à un brutal accès de désespoir. L'amoureux est inquiet, jaloux en permanence, en permanente recherche d'indices de l'amour de l'autre. C'était Daniel Messia que vous avez entendu là tout de suite. Alors, il paraît qu'on n'aime pas sa maman comme on aime son chat, ses amis, son amant ou son hobby préféré. La question est donc de savoir si les différentes formes de l'amour, maternel, romantique, fraternel, amical, etc., sont des expressions différentes d'une même émotion fondamentale ou si chacune traduit un sentiment spécifique. Alors là, deux écoles s'affrontent. Pour Freud, les formes de l'amour relèvent d'une même pulsion, la libido. On peut s'investir sur des objets différents, un parent, l'amant, un objet fétiche, le psychanalyste. Et ça peut être refoulé, idéalisé, détourné. Mais au fond, c'est toujours la même pulsion qui agit. Par contre, pour l'éthologue, l'attachement qui lie l'enfant à sa mère forme un sentiment spécifique, distinct de la libido. D'après des études ethnographiques, l'attachement qui s'acquiert par une cohabitation prolongée entre membres d'une même famille serait un inhibiteur du désir qui détourne naturellement de l'inceste. Hélène Fischer, la précédente citée, propose de distinguer trois types principaux d'amour. Le désir sexuel, l'attachement et l'amour proprement dit. Des études montrent que pour plus de 75 personnes des personnes... Qu'est-ce que j'ai dit ? 75% des personnes, excusez-moi. Ils comptent plus de vivre avec quelqu'un et surtout de se sentir aimé de lui que de coucher avec. Et une équipe de chercheurs a mené une étude sur les manifestations cérébrales de l'amour et du désir sexuel. Les résultats de l'imagerie cérébrale ont confirmé que l'amour et le sexe sollicitent des zones cérébrales en partie différentes. Vous imaginez les expérimentations dans ce cas-là ? Bon, alors voyons. Comment tombe-t-on amoureux ? Le coup de foudre, une des formes de l'amour. Les amoureux aiment à focaliser leur rencontre sur un moment originel, fortement idéalisé. À ce modèle s'opposent des récits plus progressifs d'entrée en relation. Écoutons l'écrivain américain Tom Wolfe. Autrefois, dit-il, les choses se passaient ainsi. D'abord, on faisait connaissance, puis on s'embrassait. Venait ensuite le baiser profond, les attouchements et caresses. Et enfin, si tout allait bien, jusqu'alors, on faisait l'amour. Maintenant, on se rencontre, on couche ensemble, et si l'on se plaît vraiment, alors on fait connaissance, on échange les numéros de téléphone, etc. etc. Et puis, aujourd'hui, il y a la toile. Les rencontres sur Internet, se multipliant, le sociologue Pascal Lardelier fait remarquer qu'un nombre croissant de personnes apprennent désormais à se connaître, se parlent, dévoilent leur personnalité, leur goût, une partie de leur intimité, avant de se découvrir physiquement. Pour lui, c'est une véritable révolution copernicienne dans les relations. Qu'est-ce que vous en dites ? Autre question, importante, en ces temps de revendications égalitaristes. Sommes-nous égaux devant l'amour ? La passion amoureuse aime à se présenter comme une rencontre magique et miraculeuse entre deux êtres qui échapperaient aux lois psychologiques et sociologiques. Mais la réalité est moins romantique. Pour être aimé, il vaut mieux être jeune, beau, intelligent et en bonne santé. C'est ce que révèlent des enquêtes sur l'attirance envers un partenaire, quel que soit le pays, la religion et le sexe. Il existe bien un martyr des affreux, être objet de répulsion, être moins aimé. Faut-il en conclure, tel Paul Léoto, que la plupart des liaisons sont faites de laissés pour compte qui se rencontrent et trompent ensemble leurs regrets.
Je lécherai les semelles de ton amour, boiteux, triste comme chien, fidèle, obstiné, honteux, traite-moi plus bas que terre, que m'importe les cieux, fais-moi vivre en enfer, j'en ai soupé du bleu, et si tu ne parviens qu'à m'aimer mal, ou peu, va, ça ne me fait rien. Je peux aimer pour deux, je peux aimer pour deux.
C'était Alex Baupin. Alors, dans la durée, l'amour éternel n'est-il pas un mythe ? Chacun connaît des couples fusionnels, profondément soudés, sur lesquels le temps ne semble pas avoir de prise. Mais ces couples sont rares. Dès lors que le divorce fut légalisé, son usage toujours croissant ne laissait guère de doute sur la fragilité des liens affectifs unissant les couples. Il faut se rendre à l'évidence, l'amour est fragile et ne dure pas. Peut-on prévoir la durée d'un couple ? Des chercheurs se sont penchés scientifiquement sur cette question. On aimerait savoir, à la naissance d'un couple, s'il a des chances de durer. Le professeur John Gottman pense qu'un tel diagnostic est possible. Par exemple, ce test qui consiste à filmer pendant 24 heures un couple dans la vie quotidienne. En mesurant la fréquence de leurs échanges, leur nature, le nombre de fois où ils se touchent, se sourient, la façon dont l'un réagit aux sollicitations de l'autre, etc. Au final, après 20 ans d'études et plus de 600 couples observés, M. Gottman pense prévoir à 90% si un nouveau couple se porte bien et possède des chances de survivre au temps. Pour Hélène Fischer, donc toujours la même, là, anthropologue citée plus haut, il existerait même une loi implacable du cycle amoureux. sa moyenne ne dépassant pas 3 ou 4 ans, tout au plus. Cela correspondrait à un cycle naturel. C'est le temps qu'il faut pour nouer une relation, faire un enfant, s'assurer des soins nécessaires à la petite enfance. Dès lors, le couple pourrait alors se séparer et chacun trouver un nouveau partenaire.
Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps.
Bon, vous avez reconnu Léo Ferré. Pour en terminer aujourd'hui avec l'amour, alors l'art d'aimer. On présente souvent l'amour comme un sentiment, un état passif dans lequel on tombe. Ce n'est pas l'opinion d'Éric Fromm. La première démarche qui s'impose est de prendre conscience que l'amour est un art, comme vivre est un art. On peut et l'on doit apprendre à aimer, comme on apprend le piano ou la médecine. L'amour authentique suppose de surmonter notre narcissisme ou notre dépendance. L'art d'aimer est une façon, est une leçon de morale sur le respect d'autrui. Je trouve que c'est pas très bucolique, il faut reconnaître. Mais sa conclusion me plaît.
Voilà, voilà. Ça nous laisse toutes sans voix.
Je crois qu'il y avait pas mal de questions, du coup, ce que ça a soulevé.
Et oui, c'est par rapport à cette étude-là, où du coup, il a observé s'ils sont en couple, etc. Mais il dit pas vraiment les résultats, quels sont les ingrédients d'un couple qui dure.
Il donne pas les pourcentages de sourire, d'attouchement, pour dire que le couple va perdurer. Mais bon, filmé pendant 24 heures, la fréquence des échanges, la façon dont ils échangent, le nombre de fois où ils touchent, où ils se touchent, se sourient, la façon dont l'un réagit aux sollicitations de l'autre. Je suppose qu'ils calculent ça s'il y a sur une échelle.
Le nombre d'engueulades.
Ouais, voilà. Après, c'est peut-être un peu biaisé. Si les gens ont conscience qu'il y a une caméra chez eux, peut-être qu'ils auront envie de se montrer l'un et l'autre que ça marche et que ça ne va pas se casser la gueule dans deux semaines. On du coup peut-être faire des efforts.
Alors, il doit y avoir quelque chose pour limiter le biais.
Que ça se fait beaucoup aussi sur les études de comportement chez les enfants pour essayer de déceler, par exemple, l'autisme, des choses comme ça. Tout le monde est prêt. Enfin, les parents sont prévenus, certes, mais ils prennent le temps de s'habituer, en fait. Ils filment 24 heures, mais peut-être qu'ils laissent sa caméra pendant plus de temps.
C'est ça, peut-être qu'ils le laissent plusieurs semaines, et au départ, ils pensent, et puis après, le naturel revient au galop.
J'ai pas lu le papier de ce monsieur Gottman, sur son expérimentation, qui a dû paraître sur Science, ou quelque chose comme ça, ou Psychologie, ou une chose comme ça. Voilà. Bon, on essaie de lui faire confiance, mais alors si vous avez envie de savoir, vous savez ce qu'il faut faire, écrire à ce monsieur Gottman. Voilà, on voudrait savoir si je viens de rencontrer un mec, combien de temps ça va durer.
C'est ça.
Mais il y a des gens qui font ça, envoyer par SMS, sinon amour au 3615, et ça marche aussi.
Oui, on peut faire ça.
Tu veux savoir si t'es cocu, envoie cocu au 68 600.
Pourquoi se faire chier à faire des études?
Envoie un SMS et tu sais tout. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet assez vaste. Bon, pour le coup, on pourrait en parler pendant longtemps, je pense.
Oui, il y a tout ce qui se passe au niveau chimique. Il y a tout un truc aussi quand tu tombes amoureux, que tu,
tu reçois
des doses d'hormones et tout est shooté, en fait, un peu.
Alors là, je me suis limitée aux sociologues, anthropologues, mais il y a Jean-Didier Vincent qui, lui, a étudié les humeurs de l'amour. Alors il y en a des tartines aussi, il y en a tout un bouquin. Qui c'est qu'il y a, comment il s'appelle, l'éloge de la fuite, là, comment il s'appelle ?
Henri Laborie.
Laborie aussi, qui a étudié ça. Donc, bon, là, c'était une partie, mais il y a beaucoup de chercheurs et de scientifiques qui se préoccupent de cette question. Alors, on ne sait pas pourquoi ils s'en préoccupent. Peut-être pour échapper, à leur question.
L'amour, on l'entend partout quand même, dans les chansons, dans les romans, dans les films.
Bah non, mais c'est un peu une des bases. L'humain est un animal social, donc du coup, il interagit et l'amour fait partie d'une de ses interactions finalement.
Ça doit dépendre des.
C'est pas quelque chose de systématique, mais dans les relations sociales.
Je pense que dans notre société, effectivement, l'amour est un sentiment qui fait vivre, qui est dans la société. Mais il y a des sociétés où. L'amour n'est pas un sentiment. Il y a le groupe, les relations entre les individus d'un groupe, mais pas forcément l'amour comme nous, on le conçoit.
Alors, c'est peut-être socialement construit, culturellement construit, ce que je veux dire.
Oui.
Puis là,
mais c'est même pesant du coup pour les personnes qui se retrouvent isolées hors de ce sentiment. Oui. Et c'est la condition un peu sine qua non de ta réussite dans ta vie, ton travail, machin, blabla, ta relation.
Ouais,
et si tu ne l'as pas, en fait, tu te retrouves facilement isolée. Alors qu'en réalité, des formes d'amour, il y en a plein. Et c'est toujours le modèle, le même toujours, qu'on retrouve. C'est quoi, donc
et le monospace, et le labrador, et les trois enfants, et le pavillon en banlieue. Et...
Mais ça mériterait d'en parler encore plus et de faire d'autres sujets là-dessus, parce que c'est quand même assez vaste. Quoi.
Carrément. Non, mais là, moi, je regardais 3-4 ans maxi, c'est vrai, on a dépassé les délais, là, depuis. Il y a un problème.
Ça tient toujours.
Il y a un problème.
Ça tient toujours.
Oui, c'est
bon. Bon, on s'en envoie quand même pas mal sur la gueule. Hein.
C'est bien.
J'avais dit que je parle d'une petite anecdote exprès pour le faire mousser. Mon très cher compagnon. Comme quoi, l'amour, ça peut laisser passer pas mal de choses, quand même. En ce moment, il se fait piquer un petit peu partout, sur tout le corps. Parce que l'année dernière, on a eu une invasion d'Aouta. Et là, il recommence à avoir des petites piqûres sur le corps. Alors, ça l'énerve, tu vois. Le matin, quand il se réveille, il est ronchon parce qu'il a des petites piqûres et tout. Puis cette nuit, il a eu froid. Alors que moi, j'avais chaud parce que j'ai ouvert la fenêtre. Mais lui, il avait froid. Donc, il s'est réveillé, il était grognon. Il n'était pas content. Il m'a engueulé parce qu'il avait des piqûres sur le corps et parce qu'il avait froid. Et du coup, il m'a dit que quand même, j'abusais et que, quitte à ce que j'ouvre la fenêtre, je pourrais me mettre une alarme dans la nuit pour me relever pour aller fermer la fenêtre à un moment dans la nuit pour pas qu'il ait froid. Comme quoi, ce que l'amour peut nous faire faire. Je l'ai regardé, je fais. Oui.
Et t'as acheté une alarme. Enfin, tu t'es débrouillé pour.
Que dalle.
Et te mettre un pull la nuit pour dormir.
On peut aussi faire chambre à part, à la rigueur. Hein.
Après, c'est la créativité de chacun. Quoi.
Et bien, justement, en parlant de créativité, toi, t'avais un truc assez créatif dont tu voulais nous parler.
C'est pas moi, mais toujours. Donc, c'est un peu dans cette espèce de rubrique belle et jolie.
Belle et jolie.
Voilà, mais là je dirais surtout débile et débile. Donc une nouvelle nouveauté, what the fuck. Donc oyé oyé, scoop chère madame, la dernière tendance qui vient de sortir, à ne surtout pas tester d'urgence, enfin de mon point de vue, hein, après vous faites ce que vous voulez. Ce sont les paillettes de chatte, ou plutôt les paillettes de vagin. Donc à ne pas confondre avec les décorations de foufoune, avec les couleurs, les coupes et tout. Le site Pretty Woman Incorporation vend des capsules. Les passion dust, poussière de passion, rien que ça, à mettre dans ton vagin afin qu'il soit pailleté et qu'il sente bon le bonbon.
Dans ton vagin.
Oui, tout à fait. C'est une petite gélule comme une petite ovule en fait.
Et dans ton cul, tu mets quoi?
Non, mais si on peut le mettre dans le vagin, je pense qu'on peut le mettre dans les fesses aussi. Enfin,
a priori, tu peux varier les couleurs en plus, c'est ça qui est assez génial. Quoi.
Exactement.
Du coup, pour les hommes aussi, du coup, ça peut marcher.
Ah, tout à fait. Ouais.
Ah, on va enfin péter la rose.
Exactement. Donc le problème, c'est que cela pourrait être dangereux pour la flore vaginale. Ça, malgré les avertissements des gynécologues, la marque laisse entendre qu'ils ont tort, les gynécologues, et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bon, en même temps, il y a des gynécologues cons des fois. Je sais pas. Alors moi, je dis de 1, bon, déjà, nos vagins sont splendides. Donc, je ne vois pas pourquoi ils auraient besoin de paillettes pour vous éblouir encore plus. Enfin, passons. Et de 2, surtout, pourquoi nos vagins devraient-ils sentir le bonbon et pas juste sentir notre odeur? Notre odeur de vagin, quoi. Parce que la marque, visiblement, l'a décidé et nous dit que cette capsule donnera un goût doux comme un bonbon afin que notre amant sente et ressente à quel point ton petit papillon, c'est eux qui le disent, est doux et magique. Ok. Et de rajouter que ce devrait être le cas de tous les vagins, qu'ils soient doux et magiques et qu'ils sentent bon comme un bonbon. Bon, il précise quand même, le site, que les petites particules de paillettes pourrait éventuellement déclencher une attaque pour les gens qui souffrent d'asthme si elles sont ingérées pendant les rapports sexuels oraux. Ah, je me dis, c'est chouette, c'est quand même le crime parfait, quoi. Je me mets des paillettes. Voilà. Et donc voilà, sinon ils se défendent en disant que de toute façon, tous les gynécologues vous diront que rien ne devrait entrer dans votre vagin. Donc voilà, leur ligne de défense actuellement. Donc on reste en attente de possibles infections ou non face à cette nouvelle.
En fait, je comprends pas l'intérêt, produit. Personne peut le voir dans le vagin, les paillettes.
Mais bah, si tu prends une petite lampe, un petit miroir et que tu fais ton
non,
truc.
Parce qu'en fait, c'est un peu comme quand t'as une infection, que tu te mets l'ovule, machin, et que tu sens que ça s'écoule. Bah là, c'est pareil en fait. La capsule au contact de ton pH intérieur et tout, au bout d'un moment, elle se disloque. Et du coup, en fait, tu as une cascade de paillettes.
Ah, ça coule!
Qui coule de ton vagin. Voilà, c'est les chutes du Niagara en paillettes. Voilà.
Du coup, faut quand même pas rater l'événement, parce qu'après, si ça finit, si c'est gaspillé, si ça finit dans ton slip et que ton rencard il est raté.
Chérie, va chercher l'appareil photo, ouais, c'est bon!
Tu vas la mettre quand t'as tes règles pailletées, quoi!
Oui, par exemple. Et donc, pendant un rapport, ben voilà, après, t'as le vagin plein de. C'est un espèce de gel, en fait. Parce que oui, j'ai pas trop expliqué, mais. Donc, c'est un gel pailleté. Comme une espèce de pâte à modeler très fluide. Donc pendant les rapports, il y a des paillettes partout.
Et tu peux choisir le goût, genre goût schtroumpf, goût ribot.
Alors là, pour l'instant, apparemment, il n'y a que saveur bonbon. Mais.
Ils ont proposé ça.
Galette saucisse.
Galette saucisse.
Paf. Ils ont fait.
Mais non, mais c'est ce qu'on disait. Après, la capsule, tu peux te la mettre dans l'anus si tu veux. Donc,
je crois qu'elle parlait pas de ça.
De quoi? Non, mais si.
En fait. Ah. On t'entend pas. On n'entend pas Félix Potin.
Félix Potin,
elle est censurée. Elle aurait tellement envie de réagir en plus sur les paillettes de vagin.
Elle voudrait dire un truc, mais on sent que ça les brûle.
C'est normalement, c'est bon. Ça devrait marcher.
Ouais, là,
ça
va.
Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais dire pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Mémeille, c'est que pendant le rapport sexuel, du coup, ça se transmet.
Oui.
Le machin chose.
Tout à fait.
Donc, du coup, après, lui aussi, il sent le bonbon.
Est-ce que c'est phosphorescent?
Oui, aussi.
Voilà, c'est la question que j'allais poser.
Est-ce que
c'est phosphorescent? Est-ce qu'il peut y en avoir du phosphorescent?
C'est à moitié phosphorescent avec des paillettes.
Enfin. Donc après, tu t'éteins la lumière et puis tu retrouves ton mec dans le noir.
Ah non, je ne sais pas. Oui, ça existe. Il y a des capotes fluorescentes qui existent. Ça existe.
Ah ouais,
c'est des capotes.
Ça sent pas le bonbon.
On parlait de cocu.
Ça peut.
On parlait de cocu tout à l'heure, mais si tu retrouves des paillettes dans ton lit alors que t'en as pas utilisé, hein,
et que ça sent le schtroumpf, méfie-toi.
Ou que ton mec a des paillettes, méfie-toi.
Ouais, très voilà. Très intéressant.
Ah.
Ça ouvre des horizons quand même.
Ouais, je sais pas.
Je suis allée sur le site, ils sont en rupture de stock. Hein,
donc, ah ouais. Et ça coûte cher.
Et j'ai pas trouvé le prix. Mais à mon avis, ça doit pas être donné. Ouais. C'est beau. On n'arrête pas le progrès, quoi. Mais peut-être que des fois, on devrait quand même.
On devrait carrément.
Ok. Bon, franchement, moi, sur ces bonnes paroles, je suis super rêveuse en fait. Je suis un peu tiraillée. Non, je pense que j'irai pas en acheter. Bien sûr que non. Jamais de la vie. Du coup, je pense qu'on est bon pour l'émission du bar à chaud du mois d'août. Hein.
Oui.
Donc, c'était Chamanta, Chaussette, Mémeille et MC Sit pour vous servir toujours. Et Félix Potin à la technique.
Merci
Félix. Et
beau mois d'août.
Et beau mois d'août.
T'as géré comme
en paillettes.
Et l'émission est rediffusée quand même.
Oui, mais les horaires ont changé, les horaires d'été.
Ouais, les horaires d'été ont changé, ouais.
C'est ça.
Bah, donc, ils ont qu'à écouter la radio comme
voilà,
ça, ils verront.
Ouais. On passe le samedi en première diff, je crois.
Et on vous retrouve à la rentrée.
On vous retrouve à la
rentrée.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Miaou. Miaou. Oh, j'ai cru voir un romain.
Chalor.
Miaou.
Miaou, 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 miaou. Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi? Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Miaou.
Tcha-tcha-tcha.
Qu'est-ce que ça? Le bar à chat, l'émission chat heureuse
de Radio Saint-Afrique.